passé un message ce matin. En général, quand on développe des prédications, on prend parfois certains sujets et on les met dans notre message. Mais celui-ci, j'ai voulu en faire son intégralité. J'ai voulu prêcher uniquement sur ce thème. Et je voudrais vous partager le sujet sur l'obéissance. Quand j'ai travaillé ce sujet, je me suis aperçu que l'obéissance avait une portée extraordinaire sur notre vie. Ça a eu des conséquences graves, puisque quand on regarde un petit peu aujourd'hui l'humanité, la désobéissance a eu des conséquences dramatiques, justement, sur elle, sur l'humanité. À cause de la désobéissance des hommes, aujourd'hui, on en est où nous en sommes. On voit, je dirais, une humanité dans le chaos, dans le péché, à cause de la désobéissance. Aujourd'hui, si Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans, c'est à cause de la désobéissance des hommes. Et on a un texte dans Romains chapitre 5, verset 19, où il est dit « Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Et si c'est vrai que la désobéissance a mis l'humanité à genoux, il est aussi vrai, frères et sœurs, que finalement l'obéissance peut redresser, peut restaurer, peut sauver, peut changer, je dirais, le contexte, non pas seulement planétaire, non pas seulement l'humanité, mais va aussi changer notre cœur, changer notre vie. Et ça commence par nous personnellement, avant que ça puisse se projeter tout autour de nous. Les enfants doivent obéir à leurs parents. On voit plusieurs textes dans les Écritures. Les serviteurs à leur maître. Les fidèles à leurs conducteurs, les citoyens aux autorités. Quand on regarde dans la Bible, on s'aperçoit que l'humanité entière, les hommes, cette société demande de l'obéissance. On ne peut pas vivre sans obéissance. De toute manière, celui qui tente de désobéir à un moment donné va se retrouver face à des problèmes, à des difficultés dans sa vie. Désobéissez à un patron, vous risquez de ne pas garder votre travail. Et ça, tout au long de notre vie, nous allons apprendre à obéir. Et j'ai un passage de la parole de Dieu qui m'a interpellé, c'est aux noces de Cana. Quand Jésus s'est retrouvé aux noces de Cana, il a été invité à ce mariage. Et à la fin de ce temps de mariage, à la fin, parce que c'était sur 7 jours, le dernier jour, il manquait du vin. Et il y a eu panique à bord, l'ordonnateur du repas ne savait plus comment faire et comment gérer l'affaire. Ses serviteurs étaient là, ils ne savaient pas comment changer la situation. Et la parole de Dieu nous dit que Marie, la mère de Jésus, était présente aussi à ce mariage. Et il nous est dit dans Jean chapitre 2, verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il y a eu une démarche d'obéissance. Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Et sur lequel je voudrais attirer votre attention, le premier des miracles s'est opéré par l'obéissance. Il ne s'est pas opéré par la foi, parce que personne ne connaissait Jésus. Personne ne savait qui était le maître, à part Marie. Elle savait très bien ce qu'elle avait enfanté. Mais personne ne savait que ce Jésus pouvait faire voir les aveugles, faire entendre les sourds, marcher les paralysés, faire que vraiment les morts ressuscitent, que la puissance de Dieu agisse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gens ont obéi. Et l'obéissance a amené au premier miracle. Et si c'est vrai que, je dirais, il en était de même à cette époque, il en est de même encore aujourd'hui, où l'obéissance amène au miracle dans notre vie. Si la désobéissance amène le chaos, je veux croire que l'obéissance amène au miracle et au prodige de Dieu dans notre cœur. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, des hommes et des femmes ont compris, ont saisi que, au-delà de la foi, parce que de toute manière, l'obéissance et la foi va de pair, mais à ce moment-là, tout à fait au début, ils étaient obligés d'obéir. Puis après, la foi est venue en action. L'obéissance ne change pas Dieu, mais il change les hommes. Ça ne changera pas Dieu d'obéir, mais ça te changera toi. Ça va changer ta vie, ton comportement, ton attitude. Le contexte dans lequel tu vas évoluer, ça va changer aussi ce qu'il y a autour de toi. La parole de Dieu nous parle que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Dans 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Et combien de frères et sœurs j'ai pu voir dans mon ministère aigris, blessés, parce qu'ils ont tellement fait dans l'église. Parce qu'ils se sont donnés à l'église, ils n'ont pas compté leur temps, ils n'ont pas compté l'argent, ils se sont investis corps et âme dans tant de choses, et ils n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils auraient voulu. Alors ils se sont sentis blessés, parce que pour eux c'était important. Mais Dieu de nous montrer dans ce texte que le plus important pour lui, c'est de l'obéir. On peut faire mille et une choses dans l'Église, mais si on n'obéit pas à Dieu, on est juste à côté. Et il y a un texte qui peut tout simplement nous interpeller, c'est dans Matthieu au chapitre 7, verset 21. Il nous a dit que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce texte m'interpelle. Ce texte me montre que ce n'est pas le tout de dire « Seigneur, Seigneur », de pouvoir lever les mains, de pouvoir adorer mon Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans la suite de ce texte que des gens sont venus voir Jésus, dit « Mais Jésus, en ton nom nous avons guéri. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prophétisé. Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. » Et vous savez aussi bien que moi que pour chasser un démon, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Vous savez aussi bien que moi que pour chasser un démon, il faut avoir l'onction de Dieu. Mais Dieu de te dire, ce n'est pas parce que tu as chassé les démons que tu seras forcément sauvé. Parce que le salut ne passe pas par la délivrance des hommes. Le salut ne passe pas par la prophétie. Le salut ne passe pas par la guérison. Le salut passe par l'obéissance à sa parole. Et ça change tout dans notre vie, frères et sœurs. Dieu n'est pas impressionné si on prêche devant 25 000 personnes. Mais par contre, il sera impressionné à ton obéissance à sa parole. Nous, on est impressionnés devant une foule qui vient au Seigneur. Il y a des miracles, des prodiges, même des résurrections. C'est extraordinaire. On a envie de rentrer dans cette dynamique. Mais Dieu, ça ne le touche pas. Quand je dis ça ne le touche pas, vous me comprenez. Forcément que ça le touche parce qu'il y a des âmes qui viennent à la vie alors qu'ils étaient dans la mort. Mais ce qui va nous toucher le plus, c'est l'obéissance, plus que les sacrifices. Et c'est pour cela qu'il dit, ce n'est pas tous ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attacher à la démonstration de puissance dans l'Église. Mais nous devons nous attacher à l'obéissance à sa parole. Nous devons nous attacher à sa puissance pour sa parole. Nous devons obéir à Dieu parce que c'est ça qui plaît au Seigneur. Et ça, c'est plus que les démonstrations de puissance que nous pouvons voir ailleurs. L'obéissance est un choix. C'est une position. On n'apprend pas à obéir. C'est quelque chose qui est en nous, que Dieu a imposé, a posé dans notre cœur. C'est dans notre ADN, dès notre naissance. Et quand Dieu nous demande d'obéir, c'est parce que tout simplement, il nous a mis la faculté de le faire. La volonté de le faire. J'ai un exemple que je voudrais vous illustrer. C'est ce gamin qui était debout là sur cette table, hein, alors qu'il était en train de manger. Et le père dit, mon fils, allez, tu t'assois maintenant, tu vas tomber. Un petit gamin de 6 ans. Et puis il dit à son père, non. Alors son père commence à prendre le ton, il dit « Tu vas t'asseoir maintenant !» Et puis il dit « Non !» Alors son père vient, s'approche, et commence à appuyer sur ses épaules de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et puisqu'il avait un gamin juste de 6 ans, il ne pouvait pas résister à la force de son père. Vous savez ce que dit le gamin ? Le gamin dit « Je suis peut-être assis à l'extérieur, mais je suis debout à l'intérieur. » Et parfois on peut faire ça avec Dieu. Seigneur, je vais bien plier devant les hommes, mais sache que je vais garder ma position. Mais vous savez, vous connaissez ce texte, Dieu résiste. Mais il fait grâce aux humbles. C'est pour ça que nous avons besoin de réaliser cela. Dire oui avec la langue et non avec le cœur, mais Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît notre position. Jésus soulève un point qui est déterminant dans ce texte. C'est dans Jean chapitre 15, verset 14, il dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et si vous vous arrêtez sur ce texte, vous dites « D'accord, Seigneur, si je ne fais pas ce que tu me commandes, alors finalement je ne suis pas ton ami. » Parce que c'est ce qu'il veut dire. Ce texte nous dit « Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Et si on ne fait pas ce que commande le Seigneur, notre Père, on perd son amitié. La désobéissance nous fait perdre l'amitié de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. On peut perdre la connexion divine à cause de la désobéissance. Pour ça qu'il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut faire beaucoup pour Dieu, mais si on ne fait pas la volonté de Dieu, on passe à côté. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous remettre en question par rapport à l'obéissance. C'est la raison pour laquelle ça a mis un chaos total sur l'humanité, la désobéissance. Mais ça nous touche au nid, à nous aussi personnellement. C'est pour ça que la véritable obéissance commence par nos pensées, notre attitude, notre cœur. Et que ce texte à Matthieu chapitre 6, verset 21, nous dit « Mais là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est ce que nous avons besoin de comprendre. C'est une attitude de cœur, l'obéissance. Ce n'est pas toujours facile à comprendre, l'obéissance. C'est vrai que c'est dur parfois à appliquer l'obéissance parce qu'on va le voir dans quelques instants, on voudra essayer de comprendre avant d'agir. Mais je voudrais ouvrir quand même une parenthèse par rapport à cela. Je voudrais vous parler quelques instants sur les compromis. Parce que les compromis sont des cancers à l'obéissance. Et combien de fois nous avons joué avec les compromis, avec Dieu sur les compromis ? Mentir pour éviter un conflit ou un demi-mensonge. C'est pas totalement la vérité, c'est un peu la vérité, c'est-à-dire on se conforte avec ça, mais on dit pas tout. Et parfois, en disant pas tout, ça change tout. Et c'est ça le problème. Et parfois, pour essayer de se sortir d'une certaine situation, on s'enlise dans une autre situation. Et on sent que dans notre cœur, il y a quelque chose qui va pas, parce qu'on n'a pas obéi à Dieu. Parce que finalement, quelque part, on était en désaccord avec Dieu. Ça, c'est comme voler, alors que Dieu condamne le vol. La parole de Dieu nous le dit, c'est très clair, tu ne voleras point. Je veux dire, là, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Et juste que parfois, on lit des versets bibliques, on se dit, ouais, ça c'est formidable, c'est un bon passage, et je me suis fait du bien, mais on ne se l'applique pas pour nous-mêmes. Un frère, un jour, est venu me voir, je vous rassure, pas ici sur Bastille, mais pour pas que vous essayiez de savoir qui c'est. Un jour, un frère est venu me voir, me dit, Didier, je vais faire des travaux dans ma maison, là, et l'artisan vient me voir, et c'est vrai que c'est pas mal de travaux, ça coûte pas mal, et il m'a proposé une chose, il me dit, une partie, on le paye, on le paye avec un chèque, et puis l'autre partie, on passe de main à la main en liquide. Il me dit, Didier, qu'est-ce qu'on pense de ça? Il dit, déjà, le fait de me poser la question, tu as la réponse. Il me dit, oui, j'ai compris. C'est-à-dire qu'on fait des compromis, on s'arrange, parce que ça va nous arranger à un certain moment. Mais je voudrais vous donner ce témoignage. Ce témoignage d'un frère qui m'a partagé cette expérience qui, je pense, est vraiment intéressante. Ces personnes d'ici, de Bastille, non plus, je préfère leur parler. Il y a plusieurs années de cela. Un frère qui voulait acheter une machine à café. Alors il est parti samedi après-midi acheter cette machine à café, en tout cas pour faire cette démarche d'aller, je ne sais pas si c'était Conforama, Darty ou autre, peu importe. Et là il se retrouve devant le rayon avec son épouse et puis il voit cette belle machine à café, il en regarde d'autres et puis il en repère une. Alors, celle-là était formidable parce que c'était une expresso déjà imposante et derrière vous aviez un soc où vous mettiez les graines et ça broie, vous voyez. C'est vraiment une cafetière professionnelle, à un tel point, c'est qu'elle vous fait le café, mais en plus, elle vous le boit à votre place. Et ça, c'est extraordinaire. Sauf que, entre le budget qu'ils avaient et le prix de cette cafetière, il y a un problème. C'était trop cher. Et le frère a commencé à calculer entre ce qu'il pouvait mettre et la différence. Et la différence correspondait exactement à la dîme. Et là, à une fraction de seconde, il a commencé à calculer, il dit, si je pouvais éventuellement la prendre, cette dîme, je vais acheter ma cafetière et puis bon, le mois prochain, je vais mettre mon offrande à l'église et plus de ce mois-ci, je vais le combler puisque je ne l'ai pas donné. Et puis, il en parle à sa femme et son épouse, il dit, écoute, ce serait bien qu'on fasse le tour du magasin. On va réfléchir. 10 minutes après, ils reviennent devant le rayon avec la cafetière et se disent, on va attendre encore un peu. Dimanche arrive, parce que je vous ai dit que c'était le samedi, le dimanche arrive, ils assistent au culte et puis le frère était décidé à mettre ce qui revenait au Seigneur dans le panier. Et au moment où il pose son offrande dans le panier, il y a comme une joie qui l'emporte et il se sent saisi d'un accomplissement d'un bon acte. Et son épouse dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, mais je ne sais pas, je suis envahi de cette joie. Et au moment où il dit ça, il y a un don spirituel. Ce don qui dit, oh, toi qui es ici, tu as reçu cette joie de Dieu parce que tu as obéi à ton Père. Et là, ça a été la claque de sa vie. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas fini. C'est que c'était le dimanche, ça. Et vous savez, le lundi matin, parfois, vous avez des personnes qui viennent déposer dans votre boîte aux lettres une pile de publicité comme ça, de pub. Hein, la plupart, vous les jetez à la poubelle, mais lui, il en a retiré une qui était, alors je ne sais toujours pas si Conforama ou Darty, mais peu importe, ce n'est pas là l'essentiel. Et là, en page d'accueil, c'était sa cafetière. Il a trouvé sa cafetière. 30% de réduction, il liquidait celle de l'année en cours pour sortir le nouveau modèle. Il était tout content. Alors il va le lendemain chez Darty, forcément, et là il se retrouve devant sa cafetière qui était là. Et puis, il voit le commercial, il dit, bon, ben, je voudrais cette cafetière, cette publicité. Il dit, écoutez, je suis désolé, on n'a pas encore reçu les produits. Là, on a des problèmes avec le transporteur, on les aura peut-être demain ou après-demain, on n'a pas de stock actuellement. Alors, écoutez, je peux vous faire une proposition. Vous pouvez prendre celle qui est là, en exposition. Bon, là, vous avez juste un peu de poussière, mais personne n'a touché. On vous fait encore 20% dessus. Ça fait qu'il a une cafetière à 50%. Qui dit amen ? Alléluia ! C'est-à-dire qu'il n'a pas touché à la dîme qui revenait au Seigneur, mais en plus il a gagné 20% sur ce qu'il devait mettre sur une cafetière. Pourquoi ? Parce qu'il a obéi à son Père. Parce qu'il a obéi à Dieu. C'est un détail ça, mais quand on vous explique cela, vous ressentez en vous-même que c'est bon d'avoir obéi au Père. C'est bon d'avoir accompli la parole de Dieu. C'est bon de prendre ce qui revient à Dieu et de le remettre à Dieu au lieu de le détourner pour une cause, pour un plaisir personnel. C'est ce que lui avait ressenti et c'est comme cela qu'il m'a simplement partagé son expérience. Obéir à Dieu, mais obéir à Dieu sans réserve. Noé obéit à Dieu sans réserve et on le voit dans ce texte en Genèse 6, 22, il est dit qu'il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'a pas discuté une seconde sur ce que Dieu lui a demandé de faire. Quand vous regardez ce texte, essayez de vous mettre dans le contexte de Noé, juste que le Seigneur lui a dit de construire une arche. Juste ça. Sauf que ce n'était pas pour quelques personnes, ils étaient quelques-uns dans la famille, mais ce n'était pas seulement pour eux. Il y avait un enjeu extraordinaire, mais pire que ça, c'est que le Seigneur, tu vas faire l'arche parce qu'il va pleuvoir. Comment il va pleuvoir ? Il n'avait jamais plu sur la terre. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé devant une parole de Dieu qu'il devait accepter, qu'il devait croire sans réserve, sans discuter. Et il n'a pas discuté dans la parole de Dieu puisqu'il dit qu'il exécuta tout ce que Dieu lui a ordonné. Il n'a pas parlé, il n'a pas commencé à échanger. Écoute, Seigneur, je ne comprends pas, c'est quoi cette eau qui doit descendre ? Nous, on sait ce que c'est, on l'a appris à l'école. On a vu des émissions, on nous a expliqué comment ça fonctionnait avec les nuages qui arrivent et qui descendent par la pluie. Mais lui, il ne comprenait pas comment ça va être des sources d'eau qui vont descendre, ça va être des filets, c'est quoi ? Comment ça va fonctionner cette affaire ? Il aurait pu se poser mille et une questions. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télévision, à l'époque, on n'avait pas enseigné tout cela, puisqu'on ne connaissait pas la pluie. Mais cet homme, il a fait juste une chose, obéir. Il n'a pas cherché à discuter. Parce que notre problème dans les ordres que Dieu veut nous donner, c'est qu'on veut parler avec Dieu, on veut discuter avec Dieu, on veut comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Quand Daniel s'est retrouvé à obéir à Dieu sans réserve, face au décret du roi, la parole de Dieu nous dit qu'il pria Dieu comme auparavant. Alors qu'il y avait un décret qui était tombé pendant 30 jours, il fallait adorer le roi. Daniel aurait pu très bien dire au Seigneur, écoute, Dieu, si tu veux, on va s'arranger tous les deux. Je vais me prosterner, mais tu sais que dans mon cœur, je t'aime quand même. Voilà, je vais me prosterner devant les hommes pour que les gens me voient, pour que je n'ai pas de problème pendant 30 jours, mais sache que dans mon cœur, c'est toi que j'adore. Il n'est pas rentré dans ses compromis. Il n'a pas joué avec le feu, il n'a pas voulu paraître devant les hommes. Il aurait pu même négocier avec Dieu pendant une trentaine de jours. Seigneur, vas-y, accorde-moi juste ta grâce et puis après je reviendrai comme auparavant. Non, jamais. Il n'était pas question. L'obéissance. Et il pria comme auparavant. L'obéissance à retardement n'est pas de l'obéissance. Ce n'est pas de l'obéissance. Dieu ordonne, on applique l'ordonnance. Dieu ne nous doit pas d'explications. S'il veut t'en donner, tant mieux. Mais il n'est pas forcément obligé de te donner des explications. L'obéissance, frères et sœurs, n'attend pas. Noé n'a pas attendu. Daniel n'a pas attendu. Mieux, Jésus n'a pas attendu. L'obéissance, c'est la base de notre foi, c'est de notre vie chrétienne. Quand Jésus a appelé ses disciples à le suivre, il nous a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 20, ils quittèrent leur filet et le suivirent. Et quand j'ai réfléchi à ce texte, j'ai dit, Seigneur, tu t'imagines, ils t'ont suivi de suite. Ces disciples auraient pu peut-être aller voir leur famille en disant, bon écoutez, je vous avertis là, je vais partir avec Jésus pendant 3 ans, ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Non. Il n'a pas commencé à dire à Jésus, écoute Jésus, est-ce que je peux passer une soirée avec ma famille, je vais leur expliquer comment ça va se passer entre nous, tout ça, qu'on va te suivre, on va servir, on va être des pêcheurs d'hommes et tout. Non, Ils se sont levés, ils ont servi. Ils se sont levés et ils l'ont suivi. Nous voulons comprendre et ensuite obéir. Mais Dieu de te dire ce matin, non, tu dois obéir et tu comprendras par la suite. Ça sort de notre imagination, frères et sœurs. C'est vrai que ce n'est pas naturel. Le côté naturel, c'est de dire, écoute, je veux d'abord comprendre avant d'obéir. Eh bien, Dieu, il va te dire, non, tu vas m'obéir avant de comprendre. Et ça, c'est ça qui va nous amener à rentrer dans le miracle de Dieu, à saisir le miracle de Dieu, à rentrer dans des dimensions qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas accessibles humainement parlant. L'obéissance, c'est ça. Quand Pierre est sorti de la barque, c'est de l'obéissance. Après, il a eu la foi, il fallait qu'il tende la main. Mais c'est par obéissance, il a cru à la parole de Dieu, il a obéi au message de Dieu, il a saisi quelque chose d'extraordinaire, il l'a fait sortir de la barque. Et l'obéissance va t'amener parfois à sortir de la barque sans condition et sans explication. C'est apprendre ou à laisser. Et c'est ça qui nous bouscule, frères et sœurs. Quand j'ai préparé ce message, ça m'a bousculé. Ça a remis en cause certaines choses à ma foi, dans ma vie. Ça m'a interpellé par rapport à ce sujet qui est ô combien important. Nous serions tentés parfois par une désobéissance partielle. Nous serions tentés parfois de prendre une partie de l'obéissance, mais de ne pas aller au-delà. Alors que le Seigneur te demande d'aller à fond, d'aller complètement, de lire ma Bible par exemple, mais je ne peux pas pardonner à celui qui m'a blessé, c'est un exemple. Or que la Bible nous demande de pardonner. Et parfois, on va lire des textes. Ouais, ils sont forts et c'est formidable ce texte. Je vais donner à mon frère, ça va lui faire du bien. Et toi ? On lit parfois des textes, on lit parfois des versets qui nous percutent. Mais est-ce qu'on les met en pratique réellement ? Parce que c'est ça l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas seulement le lire, mais le vivre. Le recevoir, mais le saisir. Et le mettre en pratique. L'obéissance, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de saisir la parole, de la comprendre, mais aussi de la mettre en pratique. L'obéissance partielle n'est pas l'obéissance. Jacques a écrit ceci dans son livre au chapitre 2, verset 24. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. C'est-à-dire, la foi, c'est une chose, mais il faut que tu mettes en pratique. Alors, bien sûr, il nous a parlé des œuvres de puissance dans les Écritures, mais il nous a parlé aussi de nos propres œuvres. Pas justement dire que Dieu te bénisse sans que forcément toi tu vas bénir la personne. Facile d'aller voir quelqu'un dans la rue et dire oh ben on va penser à toi dans la prière. Qu'est-ce que tu vas faire de plus après ? Il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de se nourrir, de se restaurer, juste lui dire que Dieu te bénisse puis on va continuer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? L'obéissance, c'est d'aller jusqu'au bout de l'acte. C'est d'accomplir l'acte. Pas seulement la parole, mais la parole vécue, exercée, mise en pratique. Pourquoi est-il si important d'obéir à Dieu ? Quand on regarde de plus près, parce que l'obéissance est le langage de l'amour de Dieu. Il y a un texte pour cela, c'est dans 1 Jean chapitre 14, verset 17, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » Cela veut dire que si je ne garde pas ses commandements, je ne l'aime pas. C'est ce que ça veut dire. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu ne les gardes pas, ben c'est que tu ne m'aimes pas. C'est si simple, mais c'est si compliqué parfois. Et c'est là où on a besoin vraiment de comprendre que l'obéissance, c'est vraiment une grâce de Dieu. On a vraiment besoin de demander au Seigneur de nous aider dans l'obéissance. L'obéissance est la clé pour plaire à Dieu. Il ne regarde pas à ce que nous accomplissons, mais à la manière dont nous allons obéir à Dieu. Parce que c'est bien d'accomplir la parole de Dieu, c'est bien de faire plein de choses pour Dieu, mais la manière, comment tu vas obéir ? Est-ce que tu vas obéir en rechignant ? Est-ce que tu vas obéir en reculant ? Comme ce gamin qui s'est assis, je dirais physiquement, mais qui était debout à l'intérieur. Comment, quelle va être ton attitude par rapport à l'obéissance ? C'est là où je vous dis que c'est... Ça nous bouscule parce que lui, il regarde au cœur notre Dieu. Lui va nous bousculer parce qu'il va voir ce côté vrai de notre attitude, de notre comportement. Job, c'est un exemple que je voudrais retirer parce qu'il y a une phrase qui m'a interpellé. La Bible déclare qu'il est intègre, qu'il était droit, que c'était quelqu'un de juste. C'est quelqu'un qui donnait, qui offrait des offrandes à l'Éternel pour ses enfants au cas où ils pouvaient pécher. C'est quelqu'un vraiment qui aimait Dieu, je dirais, de manière extraordinaire. C'était quelqu'un sur qui on pouvait faire confiance. Et il dit une chose. Il dit dans Job chapitre 23, verset 12, il dit « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Seigneur, parfois j'ai envie d'imposer ma volonté. Seigneur, parfois j'ai envie de que tu acceptes ce que je veux mettre en place là. On veut essayer d'imposer à Dieu quelque chose qu'on sent. On se dit, mais ça je le sens, c'est pour moi, je crois qu'il faut que je fasse comme ça. Et parfois Dieu te dit non, et tu es en lutte avec Dieu, tu es en conflit avec Dieu. Parfois il y a une discussion avec Dieu. Vous voyez, le problème de la désobéissance vient de là. C'est que parfois on discute avec Dieu. Dieu veut te dire une chose, mais dit, mais Seigneur, je pense que ça c'est mieux. On veut imposer sa volonté. Et Job, à un moment donné de sa vie, peut-être il a voulu imposer sa volonté puisqu'il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a dit, Seigneur, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai tort. À partir de là, il a remis en question tout ce qu'il pouvait imposer à Dieu. Oh, c'était quelqu'un de droit, de juste, mais ce n'était pas quelqu'un de parfait. Et tout simplement, il s'est remis en question dans son cœur. L'obéissance par la souffrance aussi. Il a vécu ça, Job. Dans Hébreux chapitre 5, verset 8, il nous dit, bien qu'il fût le fils, il nous a parlé de Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ne comprends pas tout dans la souffrance. Je vous avoue que parfois, on a des entretiens avec l'équipe pastorale, on a des entretiens de gens, de frères et sœurs, de personnes qui sont en véritable souffrance. Et on dit, Seigneur, ou il nous dit, pasteur, pourquoi ? Des fois, on n'a pas la réponse. On ne peut pas toujours comprendre la souffrance. On ne sait pas pourquoi le Seigneur nous fait passer par certains chemins. Oh, on pourrait supposer, alors bien sûr, dans la discussion, dans un dialogue, on peut s'apercevoir que des fois Dieu veut nous faire passer par une école. Parfois, c'est peut-être suite à un péché, d'autres moments suite à autre chose. Et c'est dans la discussion, on peut échanger. Mais il y a des moments, il n'y a pas de réponse. Mais il nous est dit dans ce texte que le Fils a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et parfois, nous sommes dans des doutes face à l'épreuve. Parce qu'on ne comprend pas et on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. Nous sommes parfois en colère face à l'injustice, parfois même de la haine face à la méchanceté des hommes, des gens qui nous entourent. Et il se crée comme quelque chose, on n'arrive pas à comprendre et on perd cette paix et on ne veut pas obéir à Dieu. On se dit non Seigneur, je ne vais pas plier devant ça, ils sont trop méchants. Ce n'est pas moi qui dois accepter, ce n'est pas moi qui dois demander pardon. Il y a des moments où on aurait envie de réagir et de régler nos comptes. Il y a des moments où on voudrait tout simplement remettre les gens à sa place. Là, il faudrait se taire. Et on sent vraiment qu'il y a des luttes au plus profond de notre cœur, des blessures profondes face aux abus. Mais Jésus, il aurait pu se faire justice lui aussi face au bourreau. À un moment donné, il s'est tu. Parce qu'il savait très bien que face au bourreau, s'il avait commencé à se faire justice, c'est nous qui aurions payé cash. C'est nous qui aurions payé la facture. Parce que finalement, s'il n'était pas allé jusqu'à la croix du calvaire, eh ben on n'aurait pas été sauvés. Et c'est là le problème. C'est pour ça qu'à un certain moment, il faut savoir obéir à Dieu. Et ce n'est pas toujours facile d'obéir au maître. C'est dur, il y a comme quelque chose qui nous repousse. Alors que dans Romains chapitre 12, verset 19, Paul dit « Ne vous vengez point de vous-même, bien-aimé, mais laissez Dieu agir, hein, et laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance », dit le Seigneur. » Mais parfois, devant la souffrance, frères et sœurs, on est aigri. On en veut d'abord à Dieu. Et puis après, on se dit « Non, quand même pas Dieu, c'est notre Dieu, c'est mon Créateur. » Alors on va commencer à en vouloir à l'Église. Et puis après, on va en vouloir au pasteur. Et puis après, on va en vouloir aux frères et sœurs. Et puis après, on va s'en vouloir à nous-mêmes. On passe par toutes sortes d'émotions. Face à la maladie, face à l'épreuve, face aux circonstances. On en veut à l'Église parce qu'elle n'a pas assez prié pour nous. On en veut aux gens qui nous entourent parce qu'ils ne nous comprennent pas. Tout ça parce que nous sommes dans une souffrance. Et peut-être que dans ce temps à part avec Dieu, le Seigneur voulait juste apprendre à toi, personnellement, à obéir. Tu demandes aux autres quelque chose que toi-même, tu ne veux pas t'appliquer. Et c'est la raison pour laquelle parfois il y a des luttes, il y a des combats. On résiste contre Dieu, on lève le poing contre Dieu jusqu'à ce qu'à un moment donné, on capitule et qu'on fasse, qu'on dise la même parole que Job. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est ça l'obéissance. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je ne vous dis pas que c'est facile. Mais juste une chose, c'est que quand on s'applique à la parole de Dieu, il est celui qui va nous amener à obéir avec joie. Sans contrainte, sans rechigner, mais tout simplement avec joie. L'obéissance est la première arme face à l'adversaire. Parce que c'est formidable, le but du diable, c'est de nous pousser à désobéir. C'est de nous pousser à désobéir. Regardez bien, et je vais terminer avec ça, regardez bien le ministère de Jésus. Quand il a commencé son ministère dans le désert, après les 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu, lui a montré tous les royaumes de la terre. Il a dit, ah, si tu m'adores et te prosternes, je te donnerai tout ça. Il a poussé à la faute. Il a poussé à désobéir à son père. Pas à un moment donné, il lui a montré un morceau de pain. Ça faisait 40 jours qu'il n'avait pas mangé. C'était tentant tout ça. Mais si tiens, prends ce morceau de pain, tu vas. Et il a poussé toujours là aussi à la faute. Et puis à un moment donné, il s'est retrouvé devant un ravin. Il dit, mais si tu te jettes, on sait que les anges te rattraperont, vont te soutenir. Et c'était vrai tout ça. Il aurait pu le montrer, il aurait pu le prouver. Mais sauf qu'il ne voulait pas désobéir au père. On pourrait prouver plein de choses aux hommes. Les gens voudront essayer d'avoir des preuves sur Dieu. Mais Dieu ne se prouve pas, il se croit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu te montre aujourd'hui que la seule chose que tu dois faire, c'est de lui obéir. Et à tout moment de son ministère terrestre, le diable a voulu pousser Jésus à la faute, à la désobéissance. Il n'a pas attaqué sur le terrain de la foi, il n'a pas attaqué sur tous les autres terrains, juste sur l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est quelque chose d'inné, quelque chose qui est en nous, alors que la foi, c'est quelque chose que Dieu nous donne. On doit prier pour la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Mais l'obéissance, c'est quelque chose qui est en toi, qui est dans ton ADN chrétien, spirituel. Alors il a commencé à l'attaquer au début de son ministère terrestre. Et puis à la fin, quand les disciples dormaient, que lui s'est retrouvé dans la prière avec une sueur de sang sur son visage. À un moment donné, il a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et on revient à l'obéissance. Et grâce à ça, je dirais, à cause de ça, aujourd'hui, tu es ici, je suis ici. Parce que le Seigneur est mort à la croix pour ça. Jusqu'au bout, il a obéi. Jusqu'au bout, le diable a voulu le tenter. Jusqu'au bout, il a dit, tu sais, tu peux éviter la croix. T'es Dieu. À tout moment, tu peux t'esquiver, il n'y a pas de souci. Ça ne pose pas de problème. Mais il est allé jusqu'au bout. Et ça a changé, finalement, le décor de l'humanité. Tout cela a bouleversé. Autant la désobéissance a chamboulé l'humanité, autant l'obéissance de Jésus a transformé l'humanité. Qu'est-ce qu'il en est de notre vie si on obéit au Père? Qu'est-ce que ça va transformer chez nous? Qu'est-ce que ça va transformer dans nos vies? Qu'est-ce que ça va transformer dans notre famille? Ou on va demander à nos enfants de nous obéir alors qu'on n'obéit pas à Dieu? Qu'est-ce qui va se passer un jour? Papa, tu me demandes de faire quelque chose que toi-même tu ne fais pas avec Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça a des conséquences, même dans notre foyer, même dans notre vie. Auprès de nos enfants, de nos proches. C'est ça le vrai témoignage. Le vrai témoignage, c'est plus que de dire que Jésus peut te sauver. Le vrai témoignage, c'est tout simplement d'obéir à ton maître. Les gens observeront comment tu agis avec Dieu. Les gens verront comment tu t'appliques à marcher avec Dieu au travers de l'obéissance. Et là, il n'y a rien de mieux que d'être un vrai témoin dans ce monde de ténèbres. Courbons-nous quelques instants.